Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Face au mystère de la foi chrétienne, il y a deux attitudes. Soit tout est vrai, soit rien ne l'est. Et si tout est vrai et que les réalités d'en haut existent bel et bien, alors ceux qui sont dans la gloire de Dieu peuvent prier pour les vivants que nous sommes. Parmi eux, une figure souvent mal connue, Saint Joseph, père adoptif de Jésus, disent certains, père dans cette vie en tous les cas de celui qui fut rien moins que homme et Dieu. Voilà, cette émission ce matin, Saint-Joseph, ce grand méconnu, avec le père Michel Martin Prével, qui est prêtre de la communauté des Béatitudes, et auteur entre autres d'un ouvrage intitulé « Neuvaine à la Sainte Famille » paru aux éditions MAM. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vaste, donc aujourd'hui, liturgiquement, nous fêtons la Saint-Joseph. Pourquoi c'était pas hier, juste? Est-ce que vous pouvez nous redire? Parce que...
Ah, tout simplement parce que c'était le troisième dimanche de Carême qui prend le pas sur toute autre fête, et même celle de Saint-Joseph, qui est, je vous rappelle, une solennité, depuis pas très longtemps, mais c'est une solennité. Donc l'Église met l'accent sur l'importance de Joseph pour tous les chrétiens, avec cette fête qui a donc été décalée au jour suivant, donc ce matin, le 20 mars.
Voilà, donc nous fêtons Saint-Joseph. Alors, ça peut vite faire émission assez pieuse, en fait, de parler de Saint-Joseph. Peut-être faut-il expliquer en introduction l'importance de cette figure, peut-être pour le grand public. Et puis, il y a quand même quelque chose, alors je vais commencer par ça, qui est assez fascinant sur Saint-Joseph, c'est que dans le fond, on sait très peu de choses, il y a très peu de choses que nous disent les Écritures, et pourtant, on arrive à faire des émissions de radio et à écrire des livres sur Saint-Joseph. Alors, est-ce que vous pouvez commencer peut-être par ça, c'est-à-dire c'est un homme donc, qui est dit être le père d'une certaine, je ne sais pas si on peut dire, adoptif de Jésus, enfin en tout cas père sur cette terre, mais dans le fond, ce n'est pas grand-chose de plus. Et pourtant, c'est considéré comme peut-être le plus grand saint de l'histoire de l'Église.
Oui, pourquoi? Parce que justement, à cause de l'incarnation, je crois que c'est une clé pour l'incarnation, parce que qu'il y ait une Vierge, la Marie, qui a été nécessaire pour accueillir que ce mystère du Verbe fait chair. Il a fallu une mère, mais on voit bien que, bien sûr, dans un contexte qui est celui d'Israël, il fallait aussi qu'il y ait un père. On voit bien d'ailleurs dans les évangiles de Matthieu et de Luc que tout ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une révélation. Ce ne sont pas des détails un peu historiques dont on pourrait se passer, parce que c'est au cœur encore de ce mystère d'incarnation. Donc il fallait qu'il y ait aussi cet instrument de la providence qui s'appelle Joseph. Et donc ce n'est pas simplement un saint qui a pu avoir quelques qualités et qui a été nécessaire pour la pauvre Marie. C'est beaucoup plus que cela. C'est aussi le mystère de la Sainte Famille. C'est déjà l'incarnation, c'est parce qu'elle s'est faite dans une famille. Et donc il fallait bien entendu cette figure très nécessaire d'un père. Donc c'est un père, c'est l'époux aussi de Marie, c'est pas rien. Et donc il faut le redire que c'est un véritable époux. C'est pas un veuf un peu vieux avec une vieille barbe dont il a fallu faire un simple tuteur pour cette petite jeune fille qui était une fille mère.
Alors là vous répondez à la question en fait qui il est, peut-être qu'on va voir dans un instant, oui, mais comment est-ce qu'on peut autant parler d'un homme dont dans le fond on sait très peu de choses, c'est-à-dire que...
Mais on ne sait pas non plus grand-chose de Jean-Baptiste, on ne sait pas non plus grand-chose d'Abraham, de quantité de personnages bibliques, hein. Et donc il y a quelquefois quelques versets dans l'Écriture qui nous donnent déjà des renseignements précis, mais en ce qui concerne Joseph, il y a aussi un soubassement archéologique avec la maison du juste à Nazareth, il y a aussi la tradition orale, il y a aussi tout ce que l'on trouve dans les évangiles apocryphes, qui sont des évangiles qui ne sont pas interdits, contrairement à ce qu'on croit, mais qui n'ont pas dit les choses de façon aussi forte que les évangiles canoniques. Pourtant, il y a des écrits apocryphes, et certains parlent beaucoup de Joseph, qui ont aussi renseigné sur l'origine et les qualités de cet homme.
Alors, précision faite, donc, qui était Joseph? L'Écriture dit, enfin, en tout cas dans les évangiles, moi je n'ai pas lu les évangiles apocryphes, que donc, c'est le père de Jésus, qu'il avait, semble-t-il, un certain âge, enfin, en tout cas, il est dit que Jésus...
Alors, on ne parle pas de son âge, ni dans les apocryphes,
en
ni
effet,
bien
pardon.
Sûr dans l'Évangile. C'est
alors, qui était-il? Que dit l'Évangile? Et puis, qu'est-ce qu'on peut savoir que,
voilà,
via la tradition?
On ne connaît Joseph, Saint Paul n'en parle pas, Marc non plus, parce que ce sont des écrits qui sont assez précoces. C'est à partir de Luc et de Matthieu, qui sont des évangiles un petit peu plus tardifs, et qui ont justement pu recueillir des renseignements plus précis. Matthieu et Luc parlent très précisément de ce Joseph, surtout chez Matthieu en tant qu'époux de Marie, et sa place dans, au moment de Noël, l'incarnation. Il y a le fameux doute de Joseph. On raconte aussi ce qui s'est passé avec la fuite en Égypte, avec le recouvrement au temple. Ça, c'est chez Saint-Luc. Et chez Saint-Luc, on va le présenter plus comme le père de Jésus. Donc, on voit bien qu'il y a ce double rôle. Il est l'époux de Marie et le père de Jésus. Voilà, c'est ça qui qualifie d'abord Joseph. Et comment il a pu être un grand saint, c'est en étant à la fois l'époux de Marie et en même temps le père de Jésus. Voilà
donc,
les bases.
Donc on parle de lui au moment de l'Annonciation, au moment de la fuite en Égypte, donc où un ange en fait lui dit qu'il faut fuir en Égypte. Mmh. On parle de lui quand ils reviennent en fait en Israël,
à Nazareth.
À Nazareth. Et puis après en fait on parle plus de lui.
On ne parle plus
mais
de
on
lui.
Devine qu'il est mort, c'est ça c'est...
Alors, on devine qu'il est mort parce qu'on parle de Marie après, pendant le ministère public de Jésus, et on ne parle plus de Joseph. C'est parce qu'il est mort peut-être tôt qu'on l'a dit, mais peut-être qu'il était très âgé. Rien ne peut présager de ça. On dit aussi que c'est un charpentier. Jésus lui-même sera charpentier, fils du charpentier. Ça, c'est aussi dans l'Écriture. Et on parle aussi de d'une descendance royale,
voilà,
qui était intéressante pour dire que Jésus était aussi le fils de David. Mais c'est Joseph qui est fils de David et que par Joseph que Jésus va recevoir cette ascendance dans un peuple bien précis. Parce que c'est par le Père que se fait, bien sûr, l'enracinement dans cette humanité qui est celle de Jésus. Donc il faut de la divinité, il faut de l'humanité. Ça, c'est au cœur du mystère chrétien. Le dogme, très vite, va se constituer là-dessus. Marie, qui reçoit sous l'ombre de l'Esprit-Saint, qui prend le corps de Jésus, qui est ce Fils de Dieu, mais il faut aussi qu'il soit pleinement homme, et c'est Joseph, pour ainsi dire, qui amène toute cette humanité, cette patte humaine, à Jésus. Alors on a bien là aussi, vous voyez, ce qui est central dans le dogme chrétien. Il est vrai Dieu et vrai homme, Jésus. Et c'est un peu aussi par Joseph que l'on attrape cette humanité de Jésus et toute cette histoire de la Sainte Famille à Nazareth qui a duré 30 ans, comme vous le savez, et qui est très importante pour recevoir vraiment Jésus comme un homme et homme pour les hommes.
Alors d'où vient cette tradition, je ne sais pas si c'est une tradition, qui dirait justement que c'était un homme d'un certain âge, voire même il aurait été marié, et c'est ce qui expliquerait peut-être qu'à un moment il ait parlé des frères et des sœurs de Jésus.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut penser
alors,
de cette
histoire, tradition. Oui, toute cette histoire vient de ce qu'on a été toujours, pour ainsi dire, un peu gêné que la Vierge Marie puisse avoir un vrai mari. Et pour ainsi dire sauver la virginité de Marie, à laquelle on a toujours cru et très tôt, il fallait que cette virginité soit d'autant plus possible que son mari était un vieillard et que bien sûr des rapports conjugaux vrais n'étaient pas forcément nécessaires. Alors c'est ça qui a poussé à voir Joseph plutôt comme un homme âgé. Et donc c'est comme ça qu'il est représenté, surtout dans le 19e siècle, comme un vieillard, une grande barbe, il est très chauve. Et ce vieillard, c'est un peu aussi ce qui évoque toute l'ancienne alliance. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit vieux, parce que c'est dépassé par la nouvelle alliance. Et ce vieillard, eh bien, il s'est occupé d'une petite jeune fille. Alors vous rendez compte, l'écart de génération, ça ne donne pas la représentation
vieillard
d'une
famille. Vieillard à l'école, c'était à l'époque, c'était quoi
Alors c'était de la 40, sagesse.
40-50 ans, c'est pas...
Ah oui, à l'époque, c'était pas très vieux, de fait, mais c'était surtout l'image de la sagesse qui vient de l'ancienne alliance. C'était cet homme qui a pu enseigner Jésus, lui apprendre la Torah, etc. Et voilà, donc ça donne une respectabilité à cette famille, alors que le mystère n'est pas là. Le mystère, il est surtout dans cette sainte famille, une famille qui a besoin d'être constituée. Et dans l'Israël de l'époque, c'est pas les vieillards qui étaient des saints, c'était aussi des jeunes hommes. Et donc, Joseph est vraiment cet homme qui a donné sa vie à Dieu, qui a décidé de lui obéir, qui a décidé aussi de se consacrer à Dieu, ça existait.
C'est-à-dire
un homme qui pouvait concevoir que sa vocation, c'était d'être chaste. Aujourd'hui, on comprend peut-être moins cela, pourtant ça existait en Israël, de même que des jeunes filles désiraient être chastes, et ça sera le cas, bien sûr, de la Vierge Marie.
Ils choisissaient la chasteté à l'intérieur même du mariage ?
Alors, avant et même quelquefois pendant le mariage, c'était pas quelque chose qui était aberrant, en tout cas.
C'est ce qui est dit des Esséniens, non ? C'est ça, c'était une manière
en particulier, peut-être les Esséniens.
Le retour du Christ.
Exactement, les Esséniens avaient cette vision très positive de la chasteté. Donc,
Mais alors, ça, par exemple, vous le dites, mais qu'est-ce qui peut permettre de l'attester ? Est-ce que c'est pas interprétation contre interprétation ? C'est-à-dire, certains disent que c'était un vieillard, et puis vous. vous considérez qu'il avait fait ce choix de la chasteté.
Oui, parce que enfin, rien ne dit qu'il était un vieillard dans aucune source. En tout cas, les apocryphes ont beaucoup insisté sur la chasteté de Joseph. Et c'est à cause de cette chasteté qu'on en a pu en déduire que c'était un homme âgé. Mais c'est négliger ce que l'on sait aujourd'hui de la vie des Juifs en Israël à ce moment-là et d'une société où ces valeurs-là étaient tout à fait recherchées, particulièrement chez les Anaouim, les pauvres du Seigneur qui voulaient déjà, c'est un peu les prémices de la Nouvelle Alliance, c'était ces personnes qui étaient autour du temple ou qui vivaient d'une façon très pieuse, des gens qui étaient beaucoup dans la prière. Et c'est ce qui donne aussi toute cette dimension de consacrer, si vous voulez, à Joseph ou à Marie.
Alors, à la lumière de ce que vous venez de dire, c'est une figure donc, qui, d'une certaine manière, s'est peu à peu dévoilée en fait, dans l'histoire de l'Église, si on peut dire. Et puis, il y a donc quelques grandes étapes, vous voulez en citer quelques-unes, entre autres, autour de saint François d'Assise.
Oui, et jusqu'à l'an 1000, disons, Joseph a plutôt été quelqu'un qu'on a essayé de rechercher, pour ainsi dire, avec d'ailleurs aussi des critiques. Déjà avec Cels et certains, il y a eu des apologies qui déjà défendaient la figure de Joseph contre des païens ou des gens qui attaquaient l'Église parce que justement, en touchant à Joseph, on touchait au mystère de l'incarnation. L'arianisme, vous savez, a duré longtemps et dans l'arianisme, Jésus n'est qu'un homme qui va peut-être devenir Dieu, c'est pas plus que ça. Alors, pour sauver, autrement dit, la filiation divine de Jésus, il fallait bien placer en face le rôle précis de Joseph. Et c'est pour ça que ça prendra un peu de temps. Et on redécouvre la figure de Joseph beaucoup plus au Moyen-Âge, et particulièrement les franciscains, par exemple, au XIIIe siècle, parce qu'on comprend mieux, à ce moment-là, d'une façon plus intérieure et plus spirituelle, le rôle de Joseph. Thérèse d'Avila est connue aussi au XVe siècle. Elle va beaucoup aimer. Elle va demander à Joseph d'être le patron de tous les Carmels. Et Thérèse d'Avila va beaucoup aussi développer déjà un culte à Joseph. C'est tout cela qui va se développer dans le XVIIe siècle avec l'école française et des grands auteurs.
Donc l'école française, il faut préciser, c'est l'école de spiritualité.
Voilà, vous aurez là-dedans le cardinal Bérulle, Madame Macquarie, Saint Vincent de Paul, qui aussi aimait beaucoup Saint Joseph, et puis Saint François de Sales, qui lui en a parlé très largement dans ses écrits. En développant une spiritualité de Joseph, et en particulier celle de la Sainte Famille, c'est la spiritualité qu'on va appeler la spiritualité de Nazareth. Et le 19e siècle va être beaucoup mieux repris dans les dévotions, on va faire des litanies à Saint Joseph, des prières, etc.
C'est le grand siècle de la dévotion.
C'est le grand siècle sans doute de Saint Joseph. Il va devenir le patron de quantité de personnes et de pays. Il est devenu le patron de la Belgique, le patron du Canada, avec le grand sanctuaire de Montréal, au Canada, qui est un énorme sanctuaire.
On en parlera peut-être après, oui.
Et puis vous avez aussi d'autres pays, comme les États-Unis, le Mexique, le Pérou, qui vont choisir Joseph comme patron. Et en 1870, Pie IX va déclarer Joseph patron de l'Église. Parce que c'est à cette époque-là qu'on comprend que cette protection qu'il a eue sur la Sainte Famille s'étend à la nouvelle famille, qui est l'Église tout entière. Et puis on va, après la guerre de 40, on va découvrir Joseph comme travailleur. Et c'est la fête du 1er mai qui va être instituée pour Joseph travailleur en 1955 par le pape Pie XII. Voilà comment progressivement, de fait, ce mystère s'est approfondi.
Et enfin, il est intégré au canon de la messe.
Et le canon de la messe, c'est...
Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà intégré au canon de la messe ?
C'est-à-dire qu'il est ajouté expressément, après l'évocation de la Vierge Marie, on dit aussi avec son époux Joseph, ça c'est dans la première prière eucharistique dès 1960 avec Jean XXIII, et tout récemment, le pape François l'a ajouté aux autres prières eucharistiques. Donc il a vraiment maintenant sa place, particulièrement comme patron de l'Église, et patron de beaucoup d'autres choses. Et puis, bien sûr, patron des travailleurs. Il ne faut pas oublier cette dimension.
Alors, pour finir cette première partie, il faut parler aussi donc, des apparitions de Saint-Joseph. Peut-être vous n'avez pas dit aussi que la France a été consacrée à Saint-Joseph. Alors, ça fait suite, je ne sais pas si
oui,
ça fait suite
c'est
à l'apparition.
Au XVIIe siècle.
19 mars 1661.
Voilà.
Et donc, le 7 juin 1660, il y a donc une apparition de Saint-Joseph qui est reconnue par l'Église, donc à Cotignac. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette apparition qui est presque unique
Alors,
dans l'histoire
Cotignac,
de l'Église ?
C'est dans le Var actuellement. C'est un lieu qui est donc ancien, 1661. Il y a une source miraculeuse, une apparition de Joseph, et beaucoup de foules sont venues à Cotignac, dont des princes et des rois. En particulier, c'était à ce moment-là très recherché pour les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'est toujours cette grâce encore qui est recherchée à Cotignac. Ce père qui a fait finalement, qui a favorisé l'incarnation de Jésus, on l'invoque pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Voilà, donc c'est Saint Joseph serait apparu donc à un jeune, enfin est apparu à un jeune berger qui s'appelle Gaspard Ricard. Il était épuisé et assoiffé. Et puis donc un homme lui dit: je suis Joseph. Enlève en l'occurrence un rocher, et tu boiras. Voilà, il est pas très bavard. C'est semble-t-il aussi une des marques de fabrique.
Oui. Signaler les pèlerinages à Cotignac qui ont repris avec les pères de famille, particulièrement des pèlerinages qui sont très très courus. Voilà, pères de famille qui vont chercher là-bas justement à renouveler leur grâce d'homme et de père.
Voilà, donc c'était le 7 juin 1660. Et puis donc il y a un autre, vous me disiez en préparant qu'il y avait deux autres apparitions aussi à citer. Une qu'on connaît probablement très mal, en 1879 en Irlande.
Alors c'est le lieu de Dnoch, c'est un peu le Lourdes irlandais, un lieu aussi qui est très visité par les Irlandais. Là, Joseph est apparu aux côtés de la Vierge Marie. Enfin, plutôt, c'est une apparition de la Vierge. Et aux côtés de la Vierge, il y a Saint Joseph d'un côté et Saint Jean de l'autre. L'apparition qui a eu lieu sur l'abside d'une église. Et il y avait du ciment. Et ces petits bouts de ciment ont permis qu'il y ait beaucoup de guérison. Et donc, les gens sont allés à Dnoch aussi beaucoup à retrouver là la grâce de la Sainte Famille avec cette présence de Saint Joseph.
Apparition reconnue, mais Saint Joseph n'a rien dit.
Absolument reconnue.
Saint Joseph n'a rien dit pendant l'apparition.
Non, et bien sûr qu'il a été muet dans cette apparition-là.
Et puis en 1917, lors des apparitions de Fatima, il y aurait semble-t-il, lors d'une apparition.
Dans une des apparitions, la Vierge apparaît aussi avec Saint Joseph à ses côtés, en 1917.
Voilà, et pour finir, donc quelques mots sur le sanctuaire Saint-Joseph donc à Montréal, puisque donc il y a un grand sanctuaire, c'est peut-être pas le seul, mais en tout cas là, celui-là est gigantesque, donc oratoire Saint-Joseph, qui a été voulu par un homme qui s'appelle le frère André, mort en odeur de sainteté, donc au début du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce sanctuaire, qui est peut-être le sanctuaire à Saint-Joseph dans le monde ?
Alors je ne suis pas allé à Montréal, mais de fait, ce frère André a développé... C'était un cuisinier, vous voyez, quelqu'un de très humble, ce frère André. Il a beaucoup développé cette dévotion à Saint-Joseph. Et à sa prière, à sa demande, ce grand sanctuaire a fini par être construit. Et il est actuellement un des plus grands lieux de pèlerinage pour l'Amérique du Nord et en particulier pour les Canadiens.
Voilà, 2 millions de visiteurs par an. On va faire une première pause musicale et puis après cette introduction à la personne de Saint-Joseph, on va essayer de voir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à dire à l'Église et ce qu'il a à nous dire à chacun.
Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc Saint-Joseph, ce grand inconnu, ce grand méconnu, pardon, avec le père Michel Martin Prével, prêtre de la communauté des Béatitudes, auteur notamment de Neuvaine à la Sainte Famille, paru aux éditions MAM. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, père Michel Martin Prével, juste pour, si on récapitule, ce qu'on sait donc de Joseph, c'est donc c'était un homme pieux qui aurait choisi en fait donc une forme de consécration, qui aurait choisi la chasteté avant le mariage. Enfin, c'est plus que la chasteté, c'est la continence, y compris donc peut-être choix qu'il aurait refait donc dans le cadre de son mariage avec Marie. On sait donc que c'était un charpentier. On sait qu'il était de la famille de la descendance de David, tribu de Juda. Qu'est-ce qu'on sait d'autre exactement une fois qu'on a dit ça sur Joseph? Ben,
ensuite, les évangiles parlent quand même assez souvent de Joseph. C'est quand même celui qui a été connu ce fameux doute pour accepter ce plan de Dieu. Il a eu des hésitations, on peut dire. Il a accepté ce plan de Dieu pour accueillir Marie qui était enceinte, donc. Ça, c'est un point très important dans l'Évangile. Et ensuite, c'est celui qui va organiser, pour ainsi dire, il va partir pour Bethléem, il va organiser cette naissance de l'enfant. Et puis ensuite, averti en songe, il aura à partir en Égypte, puis revenir d'Égypte, et enfin, comprendre qu'il faut qu'il s'installe à Nazareth. Voilà les moments importants, en tout cas, dans les débuts de cette sainte famille.
Donc c'est un homme aussi à qui Dieu a parlé à travers des songes, au moins à 3 reprises.
Absolument, oui.
Alors, on peut avoir de Saint Joseph, une image en fait réductrice, en tout cas, c'est ce que vous avez l'air de me dire, qui est juste d'en faire, on va dire, le père nourricier. Voilà, il a bien fallu avoir quelqu'un pour nourrir Jésus, et c'est tout. Or, semble-t-il, la tradition de l'Église en dit, des choses bien plus importantes et plus riches et plus belles. Entre autres, dans un ouvrage, alors je sais pas si ça fait partie de la tradition de l'Église, mais d'un certain André Dose, que je citerai à plusieurs reprises, qui s'appelle Joseph, ombre du Père, paru aux éditions des Béatitudes, donc votre communauté. Et alors, à un moment, dans cet ouvrage, donc André Dose dit la chose suivante. Il dit que c'est l'ombre du Père parce que c'est d'une certaine manière celui qui a appris, qui a été le visage pour Jésus, qui donc était quand même vrai homme autant que vrai Dieu, le visage de notre Père Céleste, et qui est celui aussi qui lui a appris la justesse de la loi, qui l'a éduqué à apprendre à dire non d'une certaine manière à l'esprit du monde, et à le faire rentrer en fait dans l'esprit de la loi, dans l'esprit de Dieu. Comme introduction, est-ce que la foi chrétienne va jusque-là de considérer qu'en fait que Jésus avait besoin d'un Père naturel pour construire quelque part son image de Dieu?
Oui, et là on est dans un problème qui est très contemporain avec notre époque qui a justement, comme on dit, une crise de la paternité. Vous savez, l'époque de mai 68 et puis Freud qui a dit qu'un homme n'était libre que lorsqu'il était qu'il pouvait se libérer du père. Or, aujourd'hui, on découvre l'importance du père pour construire aussi la personnalité de l'enfant. Surtout quand on a des familles qui, malheureusement, peuvent connaître cela, l'absence du père. Eh bien, cette absence du père aujourd'hui, cette crise de la paternité, elle trouve justement Saint-Joseph, elle nous aide à comprendre que pour l'enfant Jésus lui-même, il ne pouvait pas être l'enfant d'une simple mère, mais il lui fallait aussi construire en lui cette chose qui est bouleversante, que comme homme, il fallait qu'il découvre ce Père du ciel qui est son Père. Comme il le dira à 12 ans au temple, il faut que je sois aux affaires de mon Père.
Donc c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas.
Ce télescopage, vous voyez, entre ces deux paternités qui sont très importantes.
Je précise quand même pour les auditeurs, on essaie toujours dans cette émission de se mettre à la place de ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est ce passage dans l'Évangile où Jésus donc est au temple à Jérusalem et donc ses parents le recherchent et puis il a donc cette phrase en disant voilà, je suis aux affaires de mon Père.
Ton Père et moi, nous te cherchions, dit Marie, quand il le retrouve après 3 jours d'angoisse. On voit là qu'on a affaire à une famille qui est vraie. Et dans cette angoisse de Marie et du Père, Jésus leur répond, il fallait que je sois aux affaires de mon Père. Donc Jésus fait déjà très tôt la différence entre ce Père du ciel qui est le sien et ce Père qu'on peut appeler adoptif. Mais quelle noble fonction que d'être le Père adoptif, et en particulier le Père adoptif de Jésus, parce que le Père adoptif vit une véritable paternité avec cet enfant. Ce n'est donc pas seulement un homme qui est là pour nourrir la Sainte Famille. Il est là aussi pour jouer ce rôle très important d'éducation, de protecteur. On va dire de Joseph que c'est un gardien. Et les derniers papes l'ont décrit comme un gardien, le custos. Gardien de la Sainte Famille, gardien de ce mystère du Verbe fait chair qui doit grandir au milieu des hommes. Et dans cette croissance, dans cette éducation, là aussi, le rôle du père est absolument incontournable. Et il fallait donc cette paternité d'un homme exceptionnel, peut-être. C'est pour ça qu'il est d'abord un saint, un juste, parce qu'il a été façonné pour cela, façonné pour faire grandir l'enfant, comme dit saint Luc, en sagesse, en taille. Et donc, dans ce mystère de Nazareth, la place de Joseph, qui va en faire un homme, qui va l'éduquer, qui va lui enseigner la Torah, lui apprendre à prier. On ne peut pas dire que c'est Joseph qui fait la filiation divine de Jésus, parce qu'elle est préexistante. Mais pour ainsi dire, il révèle à l'enfant, dans son humanité, cette merveille qu'il est un fils. Et il l'apprend, pour ainsi dire, par les qualités de Joseph. Donc, vous voyez, c'est abyssal, parce qu'il faut ces qualités-là pour que Jésus puisse, en tant qu'homme, je dis bien, parce qu'en même temps, il a la vision béatifique de son Père.
En même temps, il est Dieu. Donc
en même temps, il est Dieu, mais il faut que dans son humanité, il y ait une croissance de cette conscience d'être fils. Et ça, il le reçoit de Joseph. Vous vous rendez compte ?
Alors l'autre chose sur laquelle vous avez insisté, c'est la tendresse de cette figure de Joseph. Alors quand vous parlez de cela, à quoi vous pensez-vous? Et puis comment, est-ce que c'est une interprétation que vous faites? Qu'est-ce qui peut attester de cette tendresse que vous prêtez à Joseph?
Alors c'est aussi d'abord parce que c'est un silencieux, c'est très étonnant, c'est pas un père qui s'impose, c'est pas un père qui prend la place, il est souvent mis en second par rapport à Marie.
Comment on sait qu'il est silencieux peut-être?
Parce que dans l'évangile il ne parle pas. On parle de Joseph, mais lui-même ne parle pas. On entend Marie qui parle. Très souvent, surtout chez Matthieu, il y a Marie qui est mise en avant. Et puis, on parle de Marie, Joseph et Jésus. Donc, Joseph est comme un petit peu aussi dans l'ombre de Marie. Mais ce n'est pas pour diminuer son importance, ce n'est pas pour diminuer l'importance du Père, c'est pour remettre en valeur cette qualité d'un Père que l'on a du mal peut-être à recevoir, c'est l'humilité ou la tendresse. Le pape François parle beaucoup de la tendresse et il parle en particulier de cette tendresse de Joseph. Vous savez, entre parenthèses, que le pape François aime beaucoup Joseph. On dit qu'il a une statue de saint Joseph chez lui, auquel il recourt très souvent.
Et il l'a dit dans une interview d'ailleurs.
Et il vient d'en parler hier au Vatican. Il a fait ce commentaire de Joseph hier en disant qu'il était très important. Son pontificat a commencé le jour de la Saint-Joseph, je vous rappelle. Et aujourd'hui, nous fêtons, pour ainsi dire, le 4e anniversaire du pontificat de François. Ce Joseph qui a été aussi, c'est le prénom du précédent, de Joseph Ratzinger, le précédent Benoît XVI. Et c'était également le prénom de Jean XXIII. Donc peut-être que Joseph a à voir avec les papes, moi je dirais. En tout cas, c'est cette humilité, cette tendresse dont parle beaucoup le François, et qu'il applique à cette paternité. Et je pense que le pape François porte lui-même cette paternité dans beaucoup de tendresse et d'humilité. Et ça en fait un anti-pater familias. Si on a rejeté le père, surtout dans la crise de mai 68, pour ainsi dire, c'est parce qu'on ne voulait plus d'un père autoritaire. Or, Joseph, c'est pas un père autoritaire. C'est un père qui, par son humilité, a su se mettre en service du Fils de Dieu. Et un père, je crois, c'est quelqu'un qui est au service de sa famille, au service de ses enfants. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir excessif dans ce père-là. C'est exactement l'inverse. C'est le père, selon la Nouvelle Alliance, un père qui est plein d'amour, un père qui est humble, tout en étant fort. C'est le père qui peut avoir de la douceur, tout en ayant de la fermeté. Parce que c'est aussi un protecteur. Et cette qualité-là, vous voyez, qui mélange la force et en même temps la tendresse, n'est-ce pas les qualités premières de Dieu lui-même ?
Il y a un autre, parmi les grandes caractéristiques de Saint Joseph, c'est donc un esprit d'obéissance, puisque on l'a dit par trois fois, donc en tout cas c'est ce que rapportent les Écritures. Donc un ange lui apparaît en songe, lui parle en tout cas en songe, et il obéit. Voilà, on peut dire qu'en plus c'est quand même des décisions importantes, puisque
voilà. Alors là, c'est tout à fait l'évangile.
Qu'est-ce qui peut attester? Est-ce que ça, enfin, ces trois événements attestent de l'humilité de cet homme? Et si oui, pourquoi?
Eh bien, cette humilité, de fait, c'est la façon dont il s'est toujours à la fois soumis à la parole de Dieu. On peut bien imaginer qu'un juif comme celui-là, un juif aussi pieux, un juif aussi bien formé, aussi déterminé à suivre le Seigneur, a beaucoup médité l'Écriture. Et c'est ce qu'il va pouvoir aussi, à son tour, enseigner au Christ. Donc, c'est sûr qu'il est pétri de la parole de Dieu, comme la Vierge Marie, et c'est pour cela qu'il a une sorte d'acuité plus grande pour entendre la parole de Dieu, entendre par l'intermédiaire de l'ange aussi. Il le vivra, lui, selon des songes, comme son lointain ancêtre Joseph dans l'Ancien Testament. Il va entendre par des songes et il va obéir, parce que ça, c'est le propre de ces grands saints, des grands saints bibliques, c'est qu'ils écoutent la parole de Dieu sans la mettre en contradiction. Donc l'obéissance, c'est l'obéissance à la parole, l'obéissance à cet ange qui, par trois fois, va lui dire ce qu'il doit faire. Alors que sa conscience d'homme, particulièrement dans ce fameux épisode du doute, le doute de Joseph,
le doute de Joseph,
la Vierge Marie était sa fiancée, et donc la Vierge Marie lui annonce très certainement qu'elle est enceinte. Quel grand mystère pour cette jeune fille d'avoir à dire ça à son fiancé.
Et quel scandale potentiel
dans le milieu qui est le leur. Eh bien, ce n'est pas la moralité de Marie qui va être un problème pour Joseph. Le doute de Joseph, c'est qu'il va se sentir indigne de servir ce mystère qu'il vient de reconnaître dans le sein de sa fiancée. Autrement dit, on pourrait croire que c'est pour une question simplement de moralité.
Vous voulez dire que tout de suite, il a cru Marie aussi?
Bien entendu, âmes-là qui sont exceptionnelles se sentent, elles sont toutes les deux tendues pour faire la volonté de Dieu. Et Joseph a cette défaillance, si on peut dire, ou cette hésitation, parce que, à cause de son humilité, il ne se sent pas capable de réaliser cette mission que voudrait lui confier le Seigneur. Et il préfère donc décliner cette offre du Seigneur. C'est ça le doute de Joseph. Ce n'est pas parce qu'il doute de la moralité et de la pureté de sa fiancée. Au contraire, il reconnaît la venue de Dieu lui-même dans le corps de sa fiancée et se sentant indigne, un peu comme Moïse, voyez, il se retire devant parce qu'il sent que... Il sent la présence de Dieu qui est si forte à ce moment-là que par indignité, il préfère se retirer. Et c'est pour ça que l'ange devra intervenir pour bien lui préciser que c'est bien la volonté de Dieu et que ce qui est annoncé à Joseph, c'est à lui de le prendre en charge. D'où ce courage de cet homme qui passe par-dessus justement cette indignité qu'il peut ressentir pour accepter et dire oui. Il y a eu le oui de Marie pour l'incarnation, mais il a fallu aussi le oui de Joseph. Il y a deux fiat dans l'évangile.
Alors justement, ça nous conduit à une autre, une autre caractéristique, c'est sa responsabilité. Alors vous en avez déjà parlé, puisque vous avez dit qu'il a été éducateur de Jésus, et pour ça il est un peu le modèle aussi de tous les éducateurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet, une fois de plus, autant que faire se peut, à la lumière de ce qu'on peut lire aussi dans les évangiles,
pas seulement... C'est un père dans tous les sens du terme, c'est quelqu'un qui va être le gardien. C'est celui qui va porter la Sainte Famille, c'est pour ça que c'est un travailleur, et on a signalé que c'était le patron des travailleurs, il est dans son atelier.
Et donc à ce sujet, il est charpentier. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque être charpentier?
Alors être charpentier, c'est pas simplement faire des charpentes, c'est peut-être sans doute un métier assez noble. N'oublions pas qu'il est de descendance royale, hein, Joseph. C'est un métier assez noble, c'est peut-être certainement en Israël quelqu'un qui fait plus que travailler du bois. Il fait peut-être aussi des meubles, il fait aussi peut-être comme un architecte, si vous voulez, des chantiers. Il procède à l'édification de certaines maisons. Donc c'est quelqu'un qui a un métier certainement manuel, et en Israël, les métiers manuels ne sont pas du tout déconsidérés, vous savez, au contraire. Et en même temps, c'est un homme qui a une certaine responsabilité. Voilà pourquoi il faudra qu'il soit au moins deux avec son fils Jésus pour faire marcher, pour ainsi dire, cette petite entreprise familiale. C'est la première entreprise chrétienne, on pourrait dire, et comme elle est l'image aussi de la grande entreprise qu'est l'Église.
En tout cas, sa responsabilité, donc, ça a été d'éduquer Jésus, de l'éduquer aussi à la loi juive, et donc aussi de lui apprendre ce métier qui était le métier de charpentier.
Voilà. Et quand on apprend un métier en Israël, on apprend aussi la vie. Ça veut dire qu'il y a une sagesse à travers un métier qu'un fils reçoit de son père. On voit dans l'Ancienne Alliance toutes ces innombrables recommandations au père d'avoir à conduire son fils. Et le fils reste dépendant d'un père pendant assez longtemps. On peut imaginer qu'il y a des hommes qui restaient sous la férule d'un père, si vous voulez, jusqu'à 20, 25, 30 ans. Et donc ça, c'est la sagesse d'Israël que le père doit transmettre. Et il doit transmettre l'intégralité des commandements, de la loi, des innombrables façons de vivre dans la pratique juive qui porte en elle-même beaucoup de vertus et de qualités. Donc c'est tout un enseignement de sagesse aussi qui a pu passer par ce métier, qui a pu passer par cette fonction de paternelle de Joseph. C'est un vrai père, et vous voyez, c'est aussi en même temps un vrai époux. C'est pas parce que la chasteté, la continence est là qu'il n'a pas réalisé parfaitement un rôle d'époux, tendre, pourquoi pas, et bien entendu, un homme, pourquoi pas, jeune pour faire cela.
Pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, je voulais parler avec vous donc de sa confiance. Alors, ça va sans dire, après tout ce que vous avez dit, mais on peut imaginer que lui, qui n'était que vrai homme, il a probablement aussi été très dérouté ou très dépassé par l'immensité du mystère qu'il vivait, d'autant qu'il n'a pas connu, semble-t-il, la vie publique de Jésus. Donc il a grandi avec un enfant qui savait, venant de Dieu, peut-être a-t-il cru que c'était le Messie d'Israël, enfin rien ne nous le dit dans l'Écriture.
Ça, c'est très certainement qu'il l'a bien reçu comme le Messie,
et pourtant,
parce que c'est dans la conscience de beaucoup de Juifs à cette époque-là que le Messie vient. La Vierge Marie, bien sûr, avait aussi cette conscience. Donc dans cette famille, on sait que c'est le Messie, on sait que c'est l'enfant du Seigneur, on sait que c'est le Fils de Dieu, entre guillemets. Mais on n'a pas encore mesuré complètement tout ce que sera la puissance de cet homme qui va annoncer le royaume, l'évangile, etc.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils avaient certaines conversations avec Jésus, parce que
mais c'est évident que dans cette famille-là,
peut-être que Jésus leur a parlé.
Bien sûr qu'on fait le Shabbat tous les vendredis soirs, et quand dans le Shabbat on parle des choses du Seigneur, et Jésus commence à recevoir à la fois de Jésus et de Marie de très beaux enseignements, et lui-même progressivement va pouvoir aussi développer tout ce qu'il est avec ceux qu'il chérit en premier, qui sont ses propres parents.
Donc peut-être leur a-t-il dit des choses qui ne sont pas rapportées dans les Évangiles, ou il leur a révélé
bien entendu,
à eux,
oui, parce que les L'Évangile ne fait que rapporter certaines choses, beaucoup d'autres choses, comme dit Saint Luc, auraient pu être écrites, qui ne sont pas écrites.
Thank you. Présence dans le Comminges, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, Saint-Joseph, ce grand méconnu, avec, si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle, le père Michel Martin Prével, prêtre de la communauté des Béatitudes, communauté nouvelle, installée entre autres à Blagnac, près de Toulouse, et auteur notamment donc d'un livre, Neuvaine à la Sainte Famille, paru aux éditions MAM, peut-être que vous nous en direz un mot à la fin. Alors, dans cette dernière partie, après avoir vu rapidement, évidemment, qui il était, et puis peut-être ce qu'il avait à dire à l'Église en général, je voudrais finir cette émission en voyant ce qu'il peut nous dire à chacun. Dans ce fameux livre, autre livre que j'ai cité une ou deux fois dans cette émission, Joseph, Ombre du Père de André Dose, paru aux éditions des Béatitudes, qui est un grand classique, si c'est pas le grand classique, en tout cas sur Saint-Joseph, il finit son dernier chapitre et être fils de Joseph. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose qu'il développe, c'est il dit la chose suivante: il faut apprendre à descendre à Nazareth. Alors, c'est évidemment spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir descendre à Nazareth? Et peut-être pouvez-vous repartir de ce lieu qu'on dit être la maison supposée de Marie et Joseph à Nazareth.
Oui, je pense que beaucoup de pèlerins qui sont allés en Terre Sainte ont visité cette maison dont on sait pratiquement de façon sûre que c'était la maison de Joseph, la maison donc de la Sainte Famille. Elle est depuis, par la tradition orale, elle a toujours reçu le nom de la maison du Juste. Et donc son lieu est incontestablement correspond à ce que devait être la maison de la Sainte Famille.
Vous pouvez la décrire peut-être déjà?
Alors c'est une maison très simple d'un style palestinien, quelques pièces. Ce sont une grande pièce et quelques autres petites pièces, des petits placards, des choses qui sont très simples parce que la vie de Nazareth c'est une vie simple. Et quand on aborde Saint-Joseph, on est justement dans le mystère, dans le silence et dans la simplicité. Et c'est ça qui est déroutant, parce qu'on dit, mais comment peut-on savoir tout cela? C'est en descendant dans ce que se pouvait tout simplement l'humble vie d'une famille juive, et on sait par ailleurs ce que peut vivre une famille juive, que l'on peut découvrir ce mystère de ce qui se passe déjà dans cette famille, qui est comme une anticipation de tout ce que Jésus va enseigner ensuite. Quand il va parler du royaume, quand il va développer les béatitudes pour montrer ce que c'est qu'être enfant du royaume, c'est être un pauvre de cœur, c'est être humble,
c'est
pur,
ce fameux discours
artisan de paix, tout ce discours que Jésus commence quand il inaugure son ministère. Il inaugure son ministère en disant ce qu'est être, c'est ce que vous avez appelé un fils de Joseph, c'est être tout simplement un fils de cette nouvelle alliance. Et Jésus le vit lui-même avec ses parents avant de l'enseigner. Donc on a dans Nazareth une sorte de laboratoire de ce qu'est la vie selon le royaume, selon l'évangile. C'est de l'évangile incarné. Alors on n'en a malheureusement pas ni un film ni des paroles, mais on imagine bien que déjà au cœur de cette famille, c'est comme une humanité nouvelle qui commence à s'enfanter. On a un prototype de ce que sera l'Église, de ce qu'est le royaume. C'est ça qu'on appelle la spiritualité de Nazareth. C'est creuser ce mystère de Nazareth pour y déceler ce que déjà a pu se vivre. Jésus parle finalement de ce qu'il aura vécu pendant 30 ans. Vous vous rendez compte? C'est ça, de l'évangile vécu.
C'est-à-dire que dans les Béatitudes, on peut imaginer qu'il parle un peu de son père aussi. Alors c'est...
Et bien entendu que ça résonne dans le cœur de Jésus, d'autant plus qu'il l'a vécu depuis tout enfant jusqu'à un homme adulte, il l'a vécu avec ses parents.
Alors, dans ce livre d'André Dose, entre autres, il parle donc de Sainte Thérèse d'Avila, dont vous avez parlé au début de cette émission, disant que c'était une de celles qui avait contribué à remettre Joseph à sa juste place dans l'Église. Cette femme qui donc aurait fait presque comme une expérience de l'enfer à l'occasion d'une maladie grave, et qui aurait dit la chose suivante, que en fait, l'anti-enfer, c'est le monde de Joseph. Et que ce monde de la Sainte Famille, c'était comme une forme d'anticipation du ciel, où justement, voilà, on vit toutes ces béatitudes. Il y a autre chose que dit ce même André Dose dans cet ouvrage, c'est que avoir rentré dans cette forme de spiritualité de Nazareth, c'est faire le choix aussi de la simplicité et du réalisme. Est-ce que vous pouvez éclairer ça? C'est-à-dire que, il y a pas mal de passages dans l'Évangile qui montrent que Joseph était quelqu'un aussi. Enfin, c'est la réputation qu'il a dans l'Église aussi de très simple, pragmatique.
Oui, parce que tout simplement, il est celui qui illustre ce que peut être l'Évangile, parce que c'est un homme. Dans l'Évangile, on ne dit pas d'être des héros. On dit d'être comme un enfant, on dit d'être comme Zachée, un pauvre qui monte sur un arbre parce qu'il ne voit pas de loin, etc. Tout ce que nous dit l'évangile du chrétien, c'est quelque chose qui ramène toujours le chrétien à du concret, à du quotidien. Et on est chrétien, bien sûr, dans les moindres actes de nos journées. Et c'est comme ça que vivaient Joseph et Marie et Jésus. Et donc ça, c'est bien l'ancrage chrétien qui reste toujours dans un grand réalisme, dans une grande simplicité. C'est ce que veut dire être pauvre de cœur. C'est être capable de vivre de cette proximité, de cette rencontre avec le Christ. Et vous voyez, dans la Sainte Famille, c'est tout fait parce que le Christ est déjà là. Et donc Joseph et Marie, ce sont pour ainsi dire les premiers chrétiens parce qu'ils avaient le Christ avec eux. Et ça, bien entendu, que dans un regard de foi, ils savent que c'est le Christ. Et donc nous sommes nous-mêmes comme invités à vivre de la même, de même état. Nous sommes des enfants de Joseph, des enfants de Marie, parce que c'est comme cela que nous serons encore plus près de Jésus.
Pour finir, dans cette spiritualité de Nazareth, ou en tout cas apprendre à être fils de Joseph, toujours André Dos dans Ombre du Père, pardon de trop citer cet ouvrage, et pas assez le vôtre, hein, je le referai à la fin, mais il dit aussi que c'est faire le choix du silence. Alors vous avez dit plusieurs reprises que de fait, même si on sait un certain nombre de Joseph, en tout cas il n'y a aucun mot qu'il aurait prononcé, en tout cas qui est rapporté dans l'évangile, sauf un dont on est sûr, c'est comment il a prononcé le nom de Jésus, puisqu'il a nommé comme tout père l'enfant qui était le sien. Ce choix du silence, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que dans le fond, on parle d'un homme dont on sait peu de choses. Pourtant, on considère que c'est presque le plus grand saint de l'histoire de l'Église, qu'il est protecteur de l'Église. Et donc, il y a un apparent paradoxe, en fait, qui dit peut-être quelque chose du mystère de Dieu. Alors, pourquoi l'importance de ce silence et qu'est-ce que ça veut dire de choisir le silence?
Parce que vous voyez comment on peut s'émerveiller devant un nouveau-né qui, justement, ne parle pas. Et on sent que dans un nouveau-né, il y a un mystère de la vie, un mystère de l'innocence, de la pureté, etc., qui nous dit quelque chose de Dieu. Ça veut dire que le silence est souvent une voie bien meilleure pour écouter la parole de Dieu. C'est contradictoire parce que Dieu parle, mais il parle dans le silence. C'est très curieux. De même qu'il va parler par cet homme, Joseph, ombre du Père, parce que l'ombre veut dire quelque chose de la lumière, finalement. Il y a de l'ombre parce qu'il y a de la lumière. Et donc, le silence, c'est parce que le silence nous révèle une parole. Vous voyez, on dit que la parole est d'argent et le silence est d'or, parce qu'il y a quelquefois, souvent, quelque chose de plus profond que l'on peut recevoir dans le silence que dans la parole. Parce que la parole limite. La parole va employer des mots, elle va donc limiter. Le silence est une sorte d'ouverture vers un horizon beaucoup plus large. Voilà pourquoi les grands priants sont des gens qui sont souvent en silence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupés du monde, au contraire, ils sont encore plus branchés sur le monde. Et donc Joseph, c'est ce géant du silence qui, justement, à travers les siècles, a pu ouvrir sa propre dimension, dimension de toute l'humanité. Dans Joseph, on sent que Joseph, qui est un homme comme nous, pour le coup, parce que si on peut parler de l'Immaculée Conception pour la Vierge, lui, il n'y a pas du tout ces choses-là. Donc Joseph, c'est vraiment celui qui est encore plus le prototype de l'humanité, qui reçoit l'enfant Jésus pour découvrir qui est le Père. Et ça, c'est en étant lui-même le Père de cet enfant qu'il va découvrir comment être Père. Et vous savez, aussi dans la famille, ce que je trouve très beau, c'est le papa qui est capable de se mettre à genoux devant son enfant en se tournant vers un père qui est le Dieu, son père, au ciel, et dire « notre père ». Voilà comment, voyez,
déjà... C'est-à-dire à genoux devant son enfant, c'est-à-dire...
Quand on voit une famille en prière, c'est très parlant de voir que le père est à genoux en même temps que son fils, et tous les deux disent « notre père ». Voilà comment Jésus a pu, en contemplant son propre Père Joseph, et comment Jésus a pu aussi découvrir ce Père du ciel. Et ça, c'est tout à fait un exemple pour nous. Mettons-nous à l'exemple de certains pères, on parle aussi des pères de la terre, et les pères de la terre, toute paternité, dit saint Paul, vient de cette paternité divine. Heureusement que nous avons des pères sur la terre, il y a aussi les pères spirituels, et moi je trouve un petit peu gênant qu'on s'empêche de dire père à un prêtre, ou à quelqu'un d'autre, un père spirituel, parce que nous avons besoin d'une paternité, nous avons besoin de cette incarnation, justement, de la paternité, à travers les pères du ciel, et les pères de la terre.
Eh ben merci beaucoup Père Michel Martin Prével. Je rappelle donc le titre de deux ouvrages. Le premier donc Neuvaine à la Sainte Famille, paru aux éditions MAM, qui est donc votre ouvrage, et Joseph Ombre du Père d'André Dose, paru aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.